Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, en ce jour où l'Église fête le Seigneur des Seigneurs, nous sommes toujours reconnaissants envers le pape Pie XI pour sa belle encyclique « Quas Primas », instituant la fête du Christ-Roi le dernier jour, le dernier dimanche d'octobre. Je vous invite d'ailleurs à lire ou à relire cette belle encyclique. Le pape y expliquait pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment roi. Il en donne deux raisons profondes, deux particulières, comme le faisait remarquer si bien l'évêque qui, il y a quelques années, m'a confirmé. Il disait à ses fidèles, la première est ce que l'Église appelle l'union hypostatique, union de la personne divine avec la nature humaine. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Il est roi parce qu'il est Dieu. En effet, il n'y a pas une personne humaine et une personne divine. Il n'y a qu'une seule personne, une personne divine qui a assumé directement, sans passer par l'intermédiaire d'une personne humaine, un corps humain. En conséquence, lorsque nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de la personne de notre Seigneur. Or, cette personne est une personne divine. Certes, Jésus-Christ en même temps est Dieu et homme, puisqu'il a assumé une âme humaine et un corps humain. Ainsi, l'âme humaine de notre Seigneur Jésus-Christ et son corps sont devenus tellement unis intimement à Dieu qu'on ne peut pas les séparer. De telle sorte que c'est la personne divine de notre Seigneur Jésus-Christ, tout entière, qui est divinisée, qui est divine et qui divinise son âme et son corps. En conséquence, notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il se présentait sur les routes de Palestine, de Bethléem, lorsqu'il était enfant et roi. Non seulement il a le caractère de la royauté, et l'Église nous enseigne que par cette union de Dieu à la nature humaine, que notre Seigneur Jésus-Christ a assumé, il est essentiellement par nature le Sauveur, le Prêtre et le Roi. Essentiellement, il ne peut pas ne pas être le Sauveur, parce qu'il est le seul à pouvoir dire qu'il est Dieu. Il est le seul à pouvoir dire qu'il est prêtre, le pontife, celui qui est vraiment le lien entre le ciel et la terre. Il est le seul à pouvoir dire qu'il est le roi. Et s'il n'est pas roi, selon ce monde, pour un territoire donné, il est roi du ciel et de la terre. Voilà la première raison profonde de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. De cela, nous devons en être convaincus, afin de voir en notre Seigneur Jésus-Christ notre roi à nous personnellement. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre roi. Mais il est aussi pour une seconde raison, et c'est encore le pape Pie XI qui l'explique très bien dans son encyclique, notre Seigneur Jésus-Christ est roi par conquête. Mais par quelle conquête, me direz-vous? Il nous a conquis tous par son sang, sa croix, par le calvaire, regnavit aliquo Deus, a régné par le bois, c'est-à-dire par la croix. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ a conquis par droit strict toutes les âmes, quelles qu'elles soient, toutes les âmes qui seront créées par Dieu et qui vivront un seul instant ici-bas sur cette terre, elles sont de droit les sujets de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il les a conquis au prix de son sang, il veut les racheter toutes et il y applique son divin sang afin de racheter les âmes et les porter à Dieu, les conduire à Dieu. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, par son sang et sa croix, est de droit aussi notre roi. C'est pour cette raison, mes chers amis, que dans les premiers siècles, après la paix constantinienne, quand les chrétiens ont pu représenter officiellement dans leurs églises, dans leurs lieux de réunion, dans leurs maisons, l'image du Christ, ils le représentaient habituellement en roi, couronné de la couronne des rois, car il est bien notre roi par la croix. Vous en avez un exemple dans le cœur de l'abbatiale Sainte-Madeleine du Barou, par exemple. Aujourd'hui, il n'est pas rare de remarquer l'absence de croix dans nos maisons. Je ne parle pas spécialement de vous, car je pense que vous en avez, y compris dans votre cuisine, votre salle de bain et dans les endroits les plus intimes. Mais d'une manière générale, je le dis, parce que c'est un fait. Parfois, nous voyons des personnes avoir la croix dans la chambre, mais pas dans le salon, pour ne pas heurter les gens qu'on pourrait recevoir et qui ne partagent pas tout à fait les mêmes conditions que nous. Mais notre Seigneur n'a-t-il pas dit de lui-même qu'il était le signe de la contradiction? Je me rappelle avoir béni un restaurant à Libreville, tenu par un Français. Je lui ai offert une croix pour mettre dans le restaurant, car il n'y en avait pas. Mais par contre, il y avait plein de Bouddhas. Une représentation qui appartient à un culte païen et philosophique, qui se répand même dans les familles catholiques parfois. Autrefois, on disait que c'était des idoles. Il fallait donc les jeter, les détruire. Aujourd'hui, on dit que ce sont des œuvres d'art qui procurent de la sérénité. Mais Moïse n'a-t-il pas détruit le veau d'or? Et Jésus n'a-t-il pas chassé les vendeurs du temple? Il faut remettre le Christ, mes amis, au centre de notre vie et dans les espaces que nous occupons, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique. Il nous faut nous séparer des idoles. J'ai connu des expériences assez fortes quand j'étais missionnaire au Gabon avec le culte des reliques, qui n'a rien à voir avec notre culte à nous, où on honore les saints, on va même les encenser pour ce qu'ils ont été dans leur sainteté comme fidèles à Dieu et comme des voies d'exemple qu'ils nous laissent. Mais le culte des reliques que j'ai connu en terre gabonaise, c'était les reliques des ancêtres, c'était les crânes qu'on mettait dans les malles et qu'on sortait une fois par an pour dresser la table et les mettre à table. Et puis ensuite, on fermait les portes et on écoutait. On entend les bruits de vaisselle, les bruits des verres, les bruits des fourchettes et des couteaux. Mais évidemment, tout ce qui se passe dans cette salle avec ces reliques, c'est des esprits qui viennent de l'enfer. Et lorsque nous avons, par la prédication de l'Évangile, des gens qui sont touchés par la grâce de Dieu et qui viennent vous voir pour vous demander le baptême, pour mettre Dieu dans leur vie, eh bien, il faut détruire ces reliques. Il faut détruire ce qui n'est pas de Dieu, parce que ce qui n'est pas de Dieu est du diable, mes amis. Nous devons donc nous demander si, en conséquence de tous ces principes, de cette nature de notre Seigneur Jésus-Christ, roi, et de cette conquête que Jésus a fait de nos cœurs et de nos âmes par sa mort sur la croix, nous devons nous demander si vraiment notre Seigneur Jésus-Christ est en pratique quotidiennement dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées. Est-ce qu'il est vraiment notre roi? Le pape Pie XI, dans son encyclique, nous l'explique. Il nous explique comment Jésus doit être notre roi. Il doit être le roi de nos intelligences, de nos pensées, parce qu'il est la vérité. Il est la vérité. Jésus-Christ est la vérité parce qu'il est Dieu. C'est pour cette réalité, pour cette foi, que le jeune José Luis Sanchez del Rio a donné sa vie seulement à 14 ans au Mexique. Alors, est-ce que vraiment notre Seigneur Jésus-Christ est le roi de nos pensées? Est-ce qu'il est vraiment celui qui oriente toutes nos pensées, toutes nos réflexions, tout notre intellect, la vie de notre foi? Est-ce que vraiment notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui est la lumière de nos intelligences, qui est la lumière de nos volontés. Voilà, mes bien chers amis, les questions qu'il faut se poser. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut donner des réponses par des actes concrets que l'on pose dans notre vie. Qu'es-tu prêt ? Oui, toi, chrétien de Saint Jean-Baptiste et d'ailleurs, qu'es-tu prêt à changer dans ta vie ? Pour confesser de cœur comme d'esprit le Christ roi. Vive le Christ roi, ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.